Il est 8h passées de 23 minutes à Paris, c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour Vincent Diblange.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Avec à la une, après la polémique sur la colonisation, Emmanuel Macron qui s'explique dans le Figaro.
Oui, l'ancien ministre de l'économie a parlé mardi en Algérie, hein, Valérie Gasse nous le disait à l'instant, de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité. Levée de bouclier à droite, à l'extrême droite aussi pour Emmanuel Macron dans le Figaro. Cette polémique dit beaucoup de l'état dans lequel la France s'enferme, une espèce de passion mauvaise pour l'histoire qui consiste à n'en voir qu'une partie. Je ne suis ni dans la repentance ni dans le refoulé, dit-il. Pour la droite et l'extrême droite, pointe l'historien Benjamin Stora dans Libération, l'histoire de France doit être prise comme un bloc. Mais à vouloir faire ça, on finira par dire qu'il ne s'est rien passé sous Vichy ou sous la Révolution française, comme le massacre des Vendéens. C'est une lecture à géométrie variable.
La France est aujourd'hui bloquée par les passions tristes de son histoire, martèle Emmanuel Macron dans le Figaro.
Nous devons réconcilier des mémoires fracturées, celles des harkis, celles des pieds noirs, celles des Français d'origine algérienne, celles des binationaux. Cela passait-il par l'utilisation des termes « crimes contre l'humanité » ? C'est une vieille question, résume l'historien Benjamin Stora. Pendant la guerre d'Algérie, déjà, il y avait toute une série d'arguments avancés par des avocats, principalement ceux du FLN, mais aussi par l'historien Pierre Vidal-Naquet. Michel Rocard lui-même parlait de crimes contre l'humanité parce que certains paysans sont morts de faim en Algérie.
Mais quelle mouche a piqué Macron ? C'est la question que se pose le Parisien aujourd'hui en France.
Officiellement, les proches de Macron défendent son droit à briser des tabous, raconte la journaliste du Parisien. Mais selon d'autres, il s'agirait surtout d'un loupé qui a d'ailleurs contraint le candidat à publier hier, on l'a entendu, une vidéo pour s'excuser, notamment auprès des anciens combattants. Il cherche les voies des quartiers où il voit bien que Benoît Hamon est populaire. Il fait du clientélisme, maugrait un responsable socialiste ce matin dans le Parisien. Dans sa campagne qui se veut au-dessus des clivages partisans entre droite et gauche, Emmanuel Macron vient de faire son premier gros faux pas, estime La Voix du Nord. C'était le moyen le plus sûr de rouvrir en France les blessures d'une histoire tragique dont les témoins et leurs descendants n'ont jamais fait leur deuil malgré le demi-siècle qui s'est écoulé. Beaucoup, note ce matin le journal de la Haute-Marne, se sont cassés les dents par le passé sur le thème de la colonisation, entre excuses sans le dire et mise en avant des progrès qu'elle aurait engendrés. Un exercice d'équilibriste pour le candidat d'En Marche ou pour d'autres qui malheureusement, dit le journal de la Haute-Marne, ne redonne pas toujours confiance dans la parole politique et l'affirmation de solides convictions.
À la une également, les très chères conférences privées de Monsieur Fillon.
Et c'est Libération qui en fait état ce matin, alors que la majeure partie des éditorialistes français s'interrogent sur le maintien du candidat de droite après l'annonce hier de la poursuite de l'enquête préliminaire par le parquet national financier. Le quotidien de gauche détaille aujourd'hui les prises de parole de l'ancien Premier ministre depuis 2013, ici au Kazakhstan, là en Russie ou au Qatar. De petits arrangements, certes légaux, mais moralement discutables, pense Libération. Ils auraient en tout cas rapporté entre 140 000 et 210 000 euros à la société 2F dont François Fillon est l'unique associé.
En plein débat sur la transparence politique, Benoît Hamon a choisi de tout dire, affirme le Parisien aujourd'hui en France.
Le candidat du Parti Socialiste anticipe la publication obligatoire de sa déclaration de patrimoine. Benoît Hamon est propriétaire de 2 appartements, nous dit le Parisien. L'a acheté en 2006 pour 112 000 euros. L'autre acquis en 2016. Donc l'an dernier, évalué à 700 000 euros, dont il possède très précisément 46,14%. L'élu des Yvelines a souscrit par ailleurs un prêt de plus de 580 000 euros pour le financer, avec sa compagne cadre dans le groupe de luxe LVMH. Son équipe se défend d'une réponse à l'affaire Fillon, mais elle a annoncé dans le même temps hier une série de propositions qui entrent étrangement en résonance avec les révélations récentes du Canard enchaîné.
Il y a 5 ans, le renseignement américain s'intéressait de près à la campagne électorale en France.
Libération encore, et puis Mediapart ont travaillé sur un document révélé par l'organisation Wikileaks, document de 7 pages qui détaille une commande faite par la CIA à la NSA en 2011, fin 2011. L'agence chargée des écoutes, la NSA, dont le nom a été popularisé par les révélations d'Edward Snowden. Il s'agit, selon Libé, d'une liste de courses un peu particulière, une trentaine de questions du bureau Europe de la CIA pour les grandes oreilles de la NSA. Questions sur les stratégies électorales de l'UMP, du PS, du FN, sur les relations entre Nicolas Sarkozy et ses proches collaborateurs, pour analyser la confiance du président sortant d'alors sur sa capacité à rempiler pour un nouveau mandat. Questions aussi sur les éventuelles divisions au sein de la droite française ou encore sur ce que pensaient les différents candidats à l'époque sur la crise de la zone euro ou leur point de vue sur les États-Unis. Objectif notamment, nous dit Libération, permettre aux analystes de la CIA d'évaluer le paysage politique français post-électoral et l'impact potentiel sur les relations États-Unis-France et aux principaux décideurs américains de s'y préparer. Alors que beaucoup s'inquiètent en ce moment d'une possible ingérence étrangère dans la campagne de 2017, le document montre également que, déjà en 2012, les élections françaises faisaient l'objet d'une demande de surveillance extrêmement vaste des hommes et partis politiques du pays, analyse ce matin Mediapart. Le document ne précise pas, poursuit Libération, si la tentative de piratage de l'Élysée en 2012 aurait pu s'inscrire dans cette campagne d'espionnage initiée par la NSA à la demande de la CIA. Et début avril 2013, ce programme ne faisait en tout cas plus partie des priorités du renseignement extérieur américain pour ce qui est de la France.
Et qu'en est-il aujourd'hui, à un peu plus de 2 mois de l'échéance présidentielle ?
Difficile à dire, en tout cas les politiques se mettent à la messagerie cryptée, nous apprend le Parisien, on ne sait jamais, hein, redoutant les cyberespions, ils sont de plus en plus nombreux à utiliser les conversations secrètes sur Telegram, sur leur smartphone. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, François Fillon, nous dit le Parisien, l'utilisent. Ces dernières semaines, certaines interceptions de messages de l'équipe de François Fillon auraient pu être délicates, souris ce matin dans le Parisien, un élu de droite.
C'était la revue de presse de Vincent Dublange sur Radio France Internationale et dans 30 secondes, c'est le journal, toute l'actualité africaine.